Radio Okapi. Oh, Okapi.
Kintele, bassin forestier, tropico, biodiversité, ça se conjugue et ça discute au Congo-Brazzaville dans une grande conférence qui réunit plusieurs délégations conduites par des chefs d'État qui se prononcent sur la nécessité d'enclencher un partenariat stratégique pour permettre au pays de ces trois grands ensembles de peser dans les négociations internationales sur le climat. Extrait de Félix Tshisekedi à suivre en entame de ce journal. Autorisation de l'Assemblée nationale de prorogation de l'état de siège en Ituri et Nord Kivu ainsi que des discussions sur le régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. Nouvelle à découvrir dans votre journal. Il est coordonnateur de la NVC, Association nationale des victimes du Congo, Mirand Mulumba, et c'est lui que nous recevons comme invité. Il commente et fait des analyses sur certaines dispositions de la loi portant statut des anciens présidents de la République élus. Restez avec nous et vous en apprendrez davantage sur votre radio. Fidèles auditeurs, bienvenue, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. La RDC appelle à une stratégie commune sur le rôle central des pays des trois bassins forestiers tropicaux. C'est le président Félix-Antoine Tshisekedi qui l'a dit ce samedi à Kintele à Brazzaville au sommet des trois bassins du Congo, de l'Amazonie et du Bornéo-Mékong. Par ailleurs, il a rappelé que l'agression dont la RDC est victime de la part du Rwanda par le M23 contribue aussi à détruire la biodiversité importante du parc de Virunga. Le chef de l'État congolais, co-organisateur de ce sommet, a souligné le rôle majeur qu'ambitionne de jouer la RDC par son potentiel environnemental, agricole et minier. On écoute Félix-Antoine Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Irung.
Ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. En effet, bien que la grande messe sur le climat approche à grands pas, ce sommet, appelé communément de nos voeux, constitue en une opportunité, en même temps, en un défi inouï au vu de cette caractéristique que nous avons en partage, celle d'abriter sur nos territoires respectifs les trois plus grands massifs forestiers tropicaux de notre planète.
L'élévation de la filière industrielle des matières plastiques recyclables des déchets plastiques qui causent l'insalubrité dans la ville de Kinshasa notamment a été évoquée au cours du Conseil des ministres de ce vendredi. Le président de la République a fait le constat selon lequel cette filière, qui est une opportunité de création d'emplois, n'a pas encore vraiment démarré. Conséquence, les immondices jonchent les sols de toutes les communes de la ville de Kinshasa. On écoute un extrait du compte-rendu du Conseil des ministres lu par Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias et porte-parole du gouvernement. Extrait proposé par Alain Hong.
Si les déchets deviennent de matières premières rémunératrices, le président de la République a fait le constat que cette opportunité des déploiements d'une filière industrielle de recyclage de déchets de produits plastiques, source de création d'emplois rémunérés tant qualifiés que non qualifiés dans la capitale, n'a pas encore démarré de manière optimale, malgré la présence de quelques acteurs privés y opérant. Conséquence de cette situation, toutes les communes de la capitale subissent les spectacles dégradants et inadmissibles des déchets qui jonchent les rues, les caniveaux et les cours d'eau. En outre, la propension à générer un tonnage quotidien des déchets ménagers et industriels s'est accroissante du fait du développement socio-économique qu'enregistreront nos grandes agglomérations nationales en général et particulièrement la ville de Kinshasa. Cette situation constitue à la fois un défi de gouvernance et une opportunité économique. Le président de la République a invité le ministre de l'Industrie à faire un état des lieux de l'ensemble de la filière industrielle dans le recyclage de déchets de matières plastiques.
L'assainissement de Kinshasa passe par une gestion efficace des déchets. C'est dans ce cadre que la société turque Albariak a lancé hier vendredi, sous la supervision du gouvernement, l'opération de collecte et d'évacuation des soucis. C'est ce qu'écrit le gouverneur de la ville de Kinshasa sur son compte X. Gentil Ngobila précise que ceci résulte de sa détermination à résoudre ce problème de santé publique et environnementale placé en priorité dans son mandat et pour lequel il s'était rendu d'abord en Guinée pour constater l'expertise de cette société sur place, puis à leur siège en Turquie. La sensibilisation de la population à cet égard est cruciale pour consolider ses efforts. J'en appelle aux Quinois de trier les déchets à la base organique et non organique et de s'abstenir de jeter des ordures sur la voie publique et dans d'autres endroits inappropriés, souligne Gentil Ngobila. Au Maniema, une forte délégation composée staff NCA Aid de l'église norvégienne, de l'église du Christ au Congo SCC et de Caritas Congo est à Kindu pour la remise de l'arrêté provincial portant attribution gratuite et perpétuelle d'une concession forestière des communautés locales de Balanga. Ceci dans le cadre de l'exécution du projet agriculture durable et meilleure protection des forêts tropicales de la RDC tout en respectant les droits des communautés locales. Ce projet est mis en œuvre par le consortium de l'église du Christ au Congo, Caritas Congo. Congo NCA avec l'appui technique et financier de la Caritas Norvège. On écoute à ce sujet Trésor Losalé, chargé des programmes pour le compte de l'église du Christ au Congo, au micro de Florence Kizalunga.
Je suis ici dans le cadre de l'accompagnement d'une mission de remise de l'arrêté du gouverneur de province portant attribution d'une concession forestière des communautés locales de Balanga dans le territoire de Kailo. En fait, c'est un projet qui vise à faire respecter les droits des communautés. Donc, je vois les droits fonciers, les droits forestiers, et c'est depuis 2021 que nous avons commencé avec les processus et donc là nous sommes presque vers la fin de la première phase bien sûr parce qu'il s'est agi en fait de la demande et de l'obtention d'une concession forestière des communautés locales. On a commencé depuis 2021, maintenant on a obtenu déjà cette concession. On part avec la délégation du gouvernement provincial et de la coordination provinciale de l'environnement pour aller remettre officiellement cet arrêté au niveau de la communauté. Au fait, vous savez aujourd'hui avec les processus de foresterie communautaire, une communauté locale peut demander et obtenir à titre de concession forestière une partie ou la totalité de sa forêt. Et dès que la communauté obtient cette concession forestière de communauté locale, c'est pour en fait l'exploiter ou l'utiliser, bien sûr dans le respect, n'est-ce pas, des règles environnementales.
L'Assemblée nationale a autorisé hier vendredi une énième prorogation de l'état de siège à Ituri au Nord Kivu. Au cours de la même plénière, les députés ont examiné la proposition de la loi modificative de la loi 1988 portant régime spécial de sécurité sociale des parlementaires. D'après son auteur, le député national Faustin Toengao, cette nouvelle réforme après 2012 et celle 2018 vise à résoudre de nombreux problèmes liés à une vie précaire auxquels les parlementaires congolais sont confrontés à la fin de leur mandat, surtout lorsque celui-ci n'est pas renouvelé. Il propose donc une nouvelle formule de calcul de la pension de retraite et la révision à la hausse de l'âge d'admission à la retraite pour les parlementaires. Faustin Toengao est au micro de Michel Kifindangoy.
Je dois vous dire que j'ai eu à gérer à un moment donné la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons analysé le régime spécial de sécurité sociale des parlementaires congolais et nous avons trouvé que certaines dispositions étaient à améliorer. Nous avons voulu d'abord que le service qui gère la question de la sécurité sociale des parlementaires soit valorisée. Nous avons voulu aussi proposer une nouvelle formule de calcul de la pension de retraite afin d'améliorer tant soit peu ce qui doit revenir aux députés retraités après leur mandat. Voilà pourquoi nous avons voulu relever l'âge de 50 qui rend la gestion difficile dans notre pays. Au moment où nos électeurs sont retraités à l'âge de 65 ans, ce n'est pas normal. On doit éviter de légiférer pour nous-mêmes, mais nous devons tenir compte de l'intérêt général parce que nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires des ressources de l'État.
Après débat sous la présidence d'André Mbata, premier vice-président de la Chambre basse, cette proposition de loi est déclarée recevable et envoyée à la Commission socioculturelle pour un examen approfondi en 72 heures. Dans le territoire de Béni, un ultimatum de 72 heures est lancé par l'administrateur du territoire aux agriculteurs exploitants de bois et ceux des carrières minières opérant dans la forêt à évacuer cette forêt. Cet appel fait suite au récent massacre survenu dans la commune rurale de Hicha, chef-lieu du territoire, et qui a coûté la vie à 27 civils. L'armée qui prépare une opération de nettoyage dans cette zone appelle la population à la libérer au plus tard le lundi prochain. Les propos du colonel Charles Euta Omeonga sont recueillis par Marc Marofimbo.
Je lance un appel à toute la population de Oicha, Eringeti, Maimoya, Mamove, tout comme ceux qui se retrouvent dans la région de Mbao. Dès maintenant, il leur est demandé de vider ces lieux cités. Les exploitants de planches, les fabricants de braises et les agriculteurs qui sont dans la profondeur de la forêt, qu'ils vident rapidement car il y a une opération militaire de grande envergure qui sera lancée. La présence de la population en ces lieux sème confusion pour les forces armées. Ils doivent quitter sans hésiter. Nous avons donné l'ordre à l'armée de procéder aux opérations de grande envergure dans ces coins. Toute personne qui sera retrouvée dans la profondeur de la forêt sera considérée comme ennemie. Faut bien suivre cette instruction et sa communiquer. Quitter la forêt, quitter la brousse. Les forces armées entrent en opération. Ils n'épargneront personne. Toute personne qu'elles croiseront dans la forêt sera considérée comme ADF. À partir de ce vendredi jusqu'au mardi prochain, que personne n'entre dans la brousse car l'armée y fait son entrée. Que celui qui a des oreilles entende.
Parlons à présent de ce malaise social au sein de l'établissement public Transco. Les agents et cadres de cet établissement demandent au gouvernement de payer leurs salaires et primes qui datent de plusieurs mois. Dans une conférence de presse ce vendredi 27 octobre ici à Kinshasa, Nelson Mudiwamba, secrétaire exécutif de l'intersyndicale de Transco, appelle le gouvernement et le comité de gestion de son entreprise à se mettre autour d'une table afin de trouver des solutions aux problèmes qui rongent les travailleurs. Nelson Mudiwamba le dit à Paul Matendo.
Nous avons écrit au gouvernement plusieurs fois, mais le gouvernement ne sait pas nous répondre. Nous nous sommes dit peut-être que par cette voie, de faire une déclaration que le gouvernement peut nous écouter. C'est vrai qu'il y a malaise, maintenant que je vous parle, au niveau de Transco. Il y a les salaires des agents et il y en a encore beaucoup plusieurs avantages. Il y a des primes, il y a beaucoup de choses qu'il faut, en principe, chercher à obtenir pour les agents. C'est pourquoi il faudrait que le gouvernement, le bon syndical et l'employeur de Transco, le comité de gestion, puissions nous rencontrer autour d'une même table. C'est un problème très, très, très culminant. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, si par cette voie, la solution n'est pas là, il ne nous écoute pas, je pense que dans les 72 heures qui suivent, à dater de maintenant, il y aura une assemblée générale. Je pense que ce sera la meilleure des solutions pour que les agents puissent se prendre en charge.
Le ministre des Transports, Voies, des Communications et des Enclavements, Marc Ekila, et son collègue des Finances, Nicolas Kazadi, viennent de signer conjointement un arrêté interministériel axé sur la tarification pour l'acquisition des nouveaux permis de conduire biométriques sécurisés avec puce. Selon le site RTNC.cd, la Société des droits congolais spécialisée en imprimerie des valeurs AutoJust aura la charge de produire cette pièce à tous les transporteurs du pays. Ce même document renseigne le prix d'acquisition du nouveau permis de conduire dont la clé de répartition des recettes se fera entre le trésor public et la société AutoJust. Véhicule de 2 à 3 roues, $38.5. Véhicule de 3 tonnes et demi, $71.5. Véhicule à plus de 3 tonnes et demi, à $99. L'exposition Vente des produits en bien a fermé ses portes ce vendredi à Lubumbashi. Pendant 3 jours, plusieurs articles ont été présentés au public louchois. C'est notamment les produits élémentaires, les semences, les engrais chimiques, les vêtements, les équipements de bureau, les tenues pour les miniers, les pesticides et autres produits de nettoyage. Cette exposition a été une véritable opportunité pour nouer les liens d'affaires, a reconnu une exposante. On écoute Sene Kwewechi Njoka, responsable de l'entreprise Jaya Control, qui s'est confié à Jean Gandou.
Nous sommes ici pour faire des affaires avec la RDC. Depuis que nous avons commencé notre exposition, nous recevons énormément de personnes qui passent dans nos stands pour voir ce que nous pouvons faire ensemble. Ces genres de rencontres sont très bénéfiques pour le commerce dans nos deux pays respectifs. C'est ma première fois de venir en RDC, notamment avec cette exposition. Du coup, je me propose de revenir l'année suivante lors de la prochaine exposition et pour toute autre exposition qui sera organisée entre la RDC et la Zambie. Ce que je peux dire aux Congolais, c'est qu'il y a beaucoup de produits en provenance de la Zambie et nous sommes très sérieux pour nouer les relations d'affaires avec les Congolais. S'il vous plaît, cette exposition est une bonne opportunité pour avoir les produits venant de la Zambie. C'est aussi une occasion pour nous d'avoir beaucoup d'informations au sujet des produits congolais qui peuvent intéresser les Zambiens et nous pourront ainsi collaborer et mettre sur pied un réseau d'affaires qui serait pour longtemps bénéfique pour nos deux pays.
Actualité internationale.
La mission de l'ONU accélère son départ du Mali. Pendant ce temps, l'armée malienne s'active pour récupérer ses bases. La semaine dernière, ce sont les camps de Tsetesalit et d'Angelok, tous deux situés dans la région de Kidal, qui ont été libérés dans un contexte particulièrement tendu. Des convois onusiens ont été attaqués à l'engin explosif qui ont fait des blessés, selon la MINUSMA. La MINUSMA s'est dite contrainte de détruire ou mettre hors service des équipements comme des véhicules, des munitions ou des générateurs, suivant les règles de l'ONU, faute de pouvoir les emporter. Deux hommes, dont un policier, sont morts lors des manifestations qui ont dégénéré au Mozambique où l'opposition continue de contester les résultats d'élections municipales massivement remportées par le parti Frelimo au pouvoir, a-t-on appris auprès d'une ONG locale vendredi. Des manifestations ont eu lieu dans la capitale Maputo où des centaines de personnes ont mis le feu à des pneus et perturbé la circulation, ainsi que dans les villes septentrionales de Nacala et Nampula, la police ouvrant le feu contre plusieurs cortèges, a rapporté l'ONG locale Centre d'intégrité publique CIP.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Mirand Mulumba, il est le président national de l'Association nationale des victimes du Congo, ANVC. Il nous parle de certaines dispositions de la loi portant statut des anciens présidents de la République, élus qui, d'après lui, fâchent et méritent d'être revus ou tout simplement élagués pour ne pas continuer de consacrer l'impunité en RDC. Mirand Mulumba s'entretient ici avec Blaise Nungala Mayanda.
Bonjour Mirand Mulumba.
Bonjour.
L'Association nationale des victimes du Congo a organisé une conférence débat axée sur l'analyse juridique de la loi portant protection des anciens chefs d'État face à la lutte contre l'impunité en RDC. Quelles sont vos motivations?
Cette activité, ce que nous pouvons retenir est que la République de l'impunité appartiendra désormais à l'histoire. Aujourd'hui, l'association faisant la promotion et la défense de toutes les victimes de la République s'est engagée résolument pour lutter contre l'impunité des crimes graves commis en RDC. Cela suppose qu'on soit riche ou pauvre. Qu'on soit président de la République, qu'on soit premier ministre, qu'on soit que ce soit, nous devons répondre des actes que nous avons commis. Peu importe les circonstances dans lesquelles ces actes ont été perpétrés, mais vous devez être redevable vis-à-vis des instances judiciaires. Je crois que c'est une manière de consoler les victimes dans leur souffrance.
Cette loi a été votée en 2018, alors pourquoi avoir attendu 5 ans pour amorcer votre démarche?
Nous supposons absolument qu'il y avait l'arbre qui cachait la forêt, du fait que la loi n'a pas suivi son cours normal qui a conduit à son adoption, pourquoi pas, à sa vulgarisation. D'où, aujourd'hui, nous soutenons la démarche entreprise par le professeur Jacques Ndioli, l'honorable, qui, dans sa démarche, qui vise absolument la révision, notamment de certaines dispositions qui fâchent.
Quelles dispositions, par exemple, voudrez-vous que les législateurs puissent réviser?
Comme l'article 7 qui stipule que tout ancien chef de l'État joue de l'immunité de poursuite pour des crimes commis dans l'exercice de sa fonction. Mais ça, c'est inadmissible de constater qu'on est l'émanation de la volonté du peuple. On devient chef de l'État et on doit exercer pour l'intérêt supérieur de ce peuple. Et lorsque le peuple vous retire sa confiance, c'est un peuple qui devient opprimé. Vous commettez des bévues et on monte une loi de toutes pièces qui doit vous couvrir à la fin de votre mandat. C'est insulter ce peuple-là que vous avez choisi pour conduire la destinée du pays. Donc, pour honorer, pour respecter le peuple, car la souveraineté revient au peuple. Aujourd'hui, le peuple qui est victime aujourd'hui a levé le ton que la dite loi est impropre et ne peut pas être consommable. Voilà pourquoi nous voudrions que certaines dispositions soient revisées en toute urgence. C'est pour combattre l'impunité des crimes graves commis en RDC. Mais aussi, comme cela ne suffisait pas, partant des avantages accordés à ces derniers. Nous nous posons la question, qu'est-ce qu'un ancien chef de l'État, bien sûr qu'il a rendu de leur service à la nation, qu'est-ce qu'il n'a pas reçu dans l'exercice de ses fonctions qu'il pense bénéficier quand il n'est pas président de la République? Si on gère pour l'intérêt du peuple, je trouve qu'il lui fallu que nous puissions mettre les intérêts du peuple à l'avant-plan, au lieu de jouer l'assiette au beurre.
Après cette conférence, débat, quelle démarche comptez-vous poursuivre pour atteindre votre objectif?
La démarche que nous allons devoir initier, ce sont les recommandations que nous allons déjà, avant la fin de la semaine, déposer au Parlement, c'est-à-dire au bureau de deux chambres du Parlement, pour que ces recommandations soient en toute urgence endossées par notamment le professeur Ndioli, afin que ça fasse l'objet de la priorité et par rapport à certaines matières qui seront alignées, je crois, au premier trimestre de l'an 2024. Je crois que après, nous allons demander au président de la République après l'examen et le vote, je crois que la proposition sera soumise sur sa table et nous allons voir si absolument le président de la République vise le peuple d'abord ou bien ses intérêts d'abord.
Certains conférenciers ont estimé que pour cette démarche viserait un individu ou un groupe d'individus. Qu'en dites-vous?
Une loi, quand elle est promulguée, elle est impersonnelle. Elle ne vise personne. C'est ce que nous devons retenir. Cela suppose que la dite loi vise absolument le président Kasavubu, visait les autres présidents, Musée Laurent Désiré, etc. Et la loi ne vise pas un seul individu parce qu'elle est impersonnelle. Donc, qui se sent mauvais se mouche.
Miran Moulumba, Radio Capi vous dit merci.
À moi de vous dire merci.
Et voilà qui met un terme à cette édition de journal sur Radio Okapi, journal mis en onde par Pierre Diassinois, préparé par Jacques-Yves Molima et Alain Hirung. Billy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe, je vous dis sincèrement merci pour votre attention soutenue.